Autobar Automobile, négociant et mandataire automobile depuis 30 ans présente.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam.
Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, l'émission qui fait le point sur tout ce qui se passe sur la planète rugby et qui temporise vos samedis soirs à 19h entre le multiplex et le grand rendez-vous des journées de Top 14. Et comme d'habitude, on est avec Quentin Cabanis. Salut Quentin.
Rebonsoir Alexandre, bonsoir à tous.
C'est vrai qu'on a passé l'après-midi ensemble, ensemble.
Ouais, je te vois plus que ma femme. C'est...
Bah écoute, la jalousie, j'espère qu'elle est pas trop jalouse. On accueille aussi Philippe Spanguero. Salut Philippe.
Salut messieurs.
Comment ça va Philippe?
Très bien et vous?
Bah, très très bien. J'adore quand tu me vouvoies en plus, ça me fait vraiment plaisir. Jean-Baptiste Elissalde, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir tout le monde.
Et on accueille aussi évidemment Cyprien Bétou du côté du studio Sud Radio après ce pari face à Lyon. Au programme aujourd'hui, on va revenir évidemment sur le multiplex dans quelques instants avec Abderraghebe pour revenir sur aussi la rencontre de Pau. On sera avec Alain Carré, président de Colomiers, pour évoquer cette fin de saison en Pro D2, les ambitions pourquoi pas de Colomiers en Top 14. On sera aussi avec Johanna Grisé pour revenir sur la victoire de l'équipe de France qui semble se profiler. Ça devient inéluctable avec un succès très large du côté de l'Écosse. Voilà le programme, vous êtes au cœur de la mêlée.
Sud Radio, au cœur de la mêlée.
Et on attaque tout de suite Quentin Cabanis avec le récap des résultats et notamment dans cette 23e journée de Top 14, beaucoup de bonus offensifs. Hein.
Beaucoup de bonus offensifs, notamment celui de Montpellier face à Montauban 59-7. Le Stade Français qui a battu le Loup Rugby 59-17. Pau a battu Castres 27-15. Clermont s'est imposé face à l'USAP 45-14. Et match à rebondissement entre Bayonne et l'Union Bordeaux-Bègles finalement remporté par les Bordelais à extérieur 40-38. Ce soir, il y aura un savoureux Toulon-Toulouse, Alexandre.
Ouais, exactement. Quel score vous voulez mettre en lumière? Tiens, Philippe Spanguero, est-ce qu'il y a un match qui t'a particulièrement interpellé aujourd'hui?
Bah, forcément, celui de l'UBB. Cette victoire de l'UBB à Bayonne, on le décortiquera tout à l'heure. Au caractère, parce qu'à un moment, on a cru que les Bordelais n'arriveraient pas à revenir. Mais en tous les cas, il y a des motifs d'explication. La profondeur de banc dont on a parlé déjà, une discipline, encore une fois, très, très bien maîtrisée du côté de l'UBB. Et l'UBB qui se donne un peu d'air dans cette course au top 6 dont on a parlé la semaine dernière, avec cette difficulté à devoir composer avec cette échéance européenne.
Pourtant, c'était mal embarqué quand même. Il y avait 19 points de retard pour les Girondins, Philippe.
Ouais, très mal embarqué, avec en plus un ultra réalisme des Bayonnais en première période. Je sais pas si tu as des stats particulières de l'efficacité d'entrée dans les 22 mètres des Bayonnais, avec en plus dès le retour des vestiaires, deux essais très opportunistes, voire casquettes, où là vraiment on se dit que l'UBB décroche au score. Et puis là, il y a le coaching payant, encore une fois, dans la stratégie de coaching, je trouve que cette équipe de l'UBB est plutôt toujours efficace. Et puis encore une fois, une discipline de fer avec une conquête maîtrisée, 6 pénalités sur un match à l'extérieur. Ils sont sur des standards, les Bordelais, cette année en termes de discipline, qui sont très élevés. Et donc ça leur permet d'aller chercher cette victoire et puis de se donner un peu d'air dans la course au top 6 en attente des matchs à venir.
100% mêlé aujourd'hui pour l'Union Bordeaux-Bègles. 8 entrées dans les 22 mètres, 3,8 points marqués. Il faut 3,88 points marqués par entrée dans les 22 mètres en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. Et on notera notamment que, il y a eu du très très lourd, notamment en seconde période côté Union Bordeaux-Bègles. Quel est le match que tu retiens, toi, Jean-Baptiste?
Lyon et non pas Lyon. En fait pas Lyon. Non, je sais pas.
Tu vas encore tirer sur le tas français, c'est ça?
J'ai bien regardé. Non. Mais bon, après c'est le jeu. Hein. Ces équipes qui sont un
pourquoi
peu détachées.
Pourquoi ils ont fait tourner contre Racing?
Ah, ouais, ça me... Mais ça, vous verrez qu'à la fin, ça va leur coûter peut-être la deuxième place. Enfin, j'en suis sûr même. Enfin bon, j'ai toujours pas compris. Non, comme Philippe, hein, le seul match accroché à suspense où il y a eu de très bonnes choses côté bayonnais. Bien évidemment, on va le répéter, le banc bordelais fait la différence puisque il y a quand même du très 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 lourd qui rentre. Alors 18 points, c'était mal embarqué. À noter que les Bordelais l'ont joué un peu comme un match de phase finale. Celui-là, ils ont tenté les coups de pied en première mi-temps avec Reus, des coups de pied assez faciles qu'ils avaient à taper, même des plus difficiles. Hein, de 40 mètres en coin, qui fait peut-être la différence à la fin d'ailleurs. Donc voilà, il reste dans la course. Ça a été à deux doigts quand même de passer à travers.
Ouais, ça a été difficile. Toi, Quentin, qui a commenté ce match, on a même un moment un peu évoqué que l'Union Bordeaux-Bègles était en perdition. Il y avait des trous dans la raquette défensivement. 79% de réussite au plaquage à un moment dans cette partie. Hein.
À l'heure de jeu, il y avait quand même 6 essais déjà inscrits par cette équipe de l'Aviron Bayonnais contre un seul essai pour l'Union Bordeaux-Bègles. Ils se sont réveillés finalement avec l'entrée des titulaires habituels, Mathieu Jalibert, Louis Biel-Biarré, qui ont fait la différence. Swinton qui rentre, qui marque également un essai. Donc voilà, les changements ont fait énormément de bien à cette équipe de l'UBB et ils ont fait face à une équipe, bon, c'est vrai, ultra réaliste de l'Aviron Bayonnais en première période, mais ils ont su aussi faire le don rond et rester au contact par le pied notamment de Hugo Reus qui a été quand même prépondérant. Je suis assez d'accord avec Jean-Baptiste là-dessus, et notamment cette pénalité qu'il a évoquée collée à la ligne de touche extrêmement difficile qui a été réussie. Quand de son côté, Joris Segond en tentant une de 60 mètres qui passe à rien du poteau, ça se joue aussi à quelques détails et ça peut en être.
Non mais c'est intéressant parce que quand on regarde, au final il y a que 2 points d'écart à 5 minutes du terme. L'Aviron Bayonnais a une victoire bonifiée dans la besace, et là la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est quand même de souligner l'apport du banc Bordeaux-Bègles comme si c'était la seule variable. Bayonne n'a pas été de variable de cette partie pour toi, Philippe Spanguero?
Ah bien sûr, on a été une variable parce que on les a vus craquer. C'est à la fois le moment où le coaching bordelais se fait, où on sent que vraiment ils sont en difficulté, et il y a beaucoup de temps fort avec les Bordelais qui campent dans le camp bayonnais avec plus ou moins de réussite. Un petit manque d'efficacité quand même des Bordelais à noter sur ce match, mais au final ça leur sourit. Il leur a fallu quand même du temps pour marquer sur leur temps fort en deuxième période avec quelques approximations. Mais on revient à cette notion de profondeur de banc. Il a manqué 10 minutes, on va dire, à ses Bayonnais en fin de match. On a senti vraiment que physiquement les Bordelais prenaient le dessus, ils gagnaient chaque collision, ils avançaient sur leur prise de balle. On peut encore noter le match de Lucu et sa capacité à faire gagner des mètres à son équipe par son jeu au pied, qui a encore été précieux aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce match. Mais c'est vrai que cette profondeur de banc dont on parlait du côté du bébé, aujourd'hui, on voit qu'elle leur permet en effet d'être compétitifs sur les deux tableaux, parce que la question du top 6 s'était posée. Là, ils ont pris quand même une option. On avait dit avec Jamba qu'ils allaient cibler leurs deux matchs à domicile pour pas prendre trop de risques. Mais là, en ayant fait un peu tourner, ils ont réussi à aller faire le coup parfait.
Ouais, 4e défaite de la saison pour Bayonne à domicile. Jean-Baptiste Elissal, qu'est-ce qui restera de cette saison? Parce que ça avait bien démarré, puis il y a eu un petit peu une sorte de pagaille en interne qui a quand même, j'ai l'impression, pourri la saison de l'Aviron.
Ouais, la petite étoile des fins de match qui leur avait fait gagner un bon nombre de matchs a disparu. Mêlé à tout ça, des secousses internes. Un directeur sportif de plus en plus proche du terrain, contre l'avis du manager Pata qui était en place, un président qui a quelques sorties un peu pas lunaires mais un peu hors sol, qui n'a pas ajouté de calme à tout ce qui pouvait se passer. Et puis quand tu commences à perdre le fil, et ben le top 14 est tellement dense que tu te fais dépasser, et largement. C'est à peu près ce qui s'est passé aujourd'hui sur le match, c'est-à-dire un bon début et puis ça s'est étiolé petit à petit. Alors bien sûr qu'il y a l'entrée de Jalibert et les compères en face qui n'est pas rien, mais les deux dernières touches perdues, il y a deux essais bordelais qui viennent de la touche bayonnaise aussi. Donc voilà, c'est un peu l'image de leur saison. Ça démarre bien, mais ça finit pas très très bien pour eux.
C'est quelque chose que tu as déjà vécu toi, Jean-Baptiste?
Non.
De tels roulements en interne, un président qui parle, non?
Non. Ça a été même à Montpellier, quand c'est agité, c'est plutôt calme, et puis c'est très loin de tout. Il y a beaucoup moins de
Il y a beaucoup moins de monde autour, beaucoup moins de monde dans les tribunes, beaucoup moins de fervents supporters qui peuvent y mettre le nez et alimenter les réseaux. Donc non, c'est vrai que de l'extérieur, pour moi, ça a pas mis, au contraire, ça a même déstabilisé énormément le groupe. Quand tu sais plus à quel saint te vouer et que tu sais plus quel sera ton chef dans les semaines qui suivent et que tu sens toute cette déstabilisation en interne entre le président, le directeur sportif, alors que tout devrait être aligné, tout le monde devrait n'aller que dans le même sens, et ben ça joue forcément sur le moral des équipes. Et puis comme je te dis, cette petite étoile a disparu, donc les matchs que tu gagnais à la 80e qui te remplissaient le mental d'une force incroyable, et ben ça commence à partir, et comme t'es pas bon à l'extérieur, et ben tu finis dans la dernière partie du championnat, et c'est malheureusement mérité pour les Bayonnais.
Ouais, effectivement, l'aviron bayonnais donc qui s'est incliné 38-40 face à l'Union Bordeaux-Bègles. Quentin, pouvons-nous refaire un petit point sur le classement, sur les 8-9 premiers, en fait, ceux qui véritablement se battent pour aller chercher la tête, le top 6. L'UBB a quand même fait un coup, hein.
Ah bah l'UBB a fait un sacré coup, et en tout cas c'est permis d'être maître de son propre destin à l'issue de la saison. Pour le moment, Toulouse est leader avec un match en moins et 7 points d'avance sur son dauphin Montpellier, deuxième avec 70 points, 1 point d'avance sur la section paloise. Le Stade Français est quatrième avec 68 points, cinquième Clermont 66 points, l'UBB sixième 64 points, 4 points d'avance sur le Racing 92 qui jouera demain contre la Rochelle, et 9 points d'avance sur le RCT, 10 points d'avance sur la Rochelle. Voilà en ce qui concerne le top 9 de ce championnat.
Petite question du coup, est-ce que le top 6, les membres du top 6 changeront? On parle pas de l'ordre, on parle des 6. Jean-Baptiste Elissalde, d'ici la fin de la saison. Est-ce qu'on a le top 6 là?
C'est à moi de le parler. Bah en fait, j'avais fait tous mes pronostics.
T'as raison, on va d'abord mettre Philippe dans la sauce si tu veux.
Non, j'avais fait tous mes pronostics, mais c'est vrai que cette victoire de Clermont à Toulouse, ça m'a mis.
Bon, personne ne l'a mis dans la sauce. Hein.
Alors là, ça m'a mis sacrément dans la sauce parce que du coup, ils comptent pour un alors que je les avais pas mis dans le top 6. Donc, en fait, là, c'est malheur aux perdants sur le match de ce soir et de demain. C'est-à-dire que je crois que si la Rochelle s'incline au Racing ou que si le Racing s'incline face à la Rochelle, ça sera cuit. Et si Toulon venait à perdre chez eux, ça serait cuit aussi. Donc on y verrait plus clair. Et ça se jouera donc le vainqueur de la Rochelle, le vainqueur de la Rochelle Racing avec avec l'UBB, avec toutes ces équipes là. Ça risque d'être chaud jusqu'au dernier moment. Maintenant le je crois en la remontada de la Rochelle depuis un bout de temps, et on verra.
Moi aussi j'y crois.
Si c'est réalisé.
Non, mais croire et espérer, c'est pas la même chose, hein, messieurs.
Non, moi j'y crois parce qu'il y a un peu plus d'énergie. Je me dis que s'il gagne au Racing, le match de Toulouse la semaine prochaine sera du pur gala, et je vois pas comment ils pourraient passer à travers. Ça sera leur finale à eux, un déplacement en Montauban où tout le monde va gagner, et ça sera fait. Et le dernier match du Stade Français qui fera encore certainement une impasse puisqu'ils seront troisième ou quatrième et voudront pas une semaine de leur barrage.
C'est le match où ils feront pas d'impasse. Jean-Baptiste, juste pour toi.
Là, juste pour moi. Là, je n'y comprendrai rien. Non mais celle-là et celle contre les Gallois là de je sais pas d'où là en de Coupe d'Europe, j'ai pas compris leur passage, hein, j'espère qu'ils
Les Gallois de Newport tort, ils ont pas compris non plus, hein. Ils ont dit merci beaucoup, hein. ils ont laissé 10 kilos de poireaux dans le vestiaire quand même en guise de remerciement, ce qui est gentil, hein.
Donc ça va jouer
coup,
à ça
et puis de poireaux.
Montferrand a l'air Montferrand avec ce résultat à Toulouse, et ben eux, moi je comptais pas dessus, je les voyais échouer de peu, mais c'est eux qui vont rentrer dans les 6, hein, certainement. Donc bravo pour ce magnifique coup de poker à Toulouse la semaine dernière. On l'avait pas signalé puisque c'était Coupe d'Europe, mais voilà, on le signale aujourd'hui.
Philippe Spanguero, à toi de te mouiller. Est-ce que le top 6, les membres du top 6, on les a là?
Là je crois que ça bougera plus. Je crois que ça bougera plus parce qu'en plus ça va se jouer.
On enregistre.
Si le Racing gagne demain, ils peuvent repasser. S'ils gagnent avec le bonus demain,
ils peuvent repasser où?
Là, ils sont qu'à 4 points de l'UBB, hein, avec
oui,
un match de moins.
Ouais, mais dans ce qu'on s'est dit dans la feuille de route de l'UBB sur la dernière saison, on avait dit qu'ils n'allaient pas mettre toute leur énergie à l'extérieur et assurer les deux matchs à domicile. Ils ont ces deux matchs à domicile, ils ont déjà pris des points. qu'on n'attendait pas forcément. Donc sur le calendrier, ils me paraissent plus maîtres de leur destin, au moins sur deux des trois derniers matchs.
Racing a aussi deux matchs à domicile.
Ouais, mais attends, le Racing reçoit Toulon, on va à Clermont et reçoit Toulouse. C'est quand même, c'est quand même bon.
Oui, c'est pas
le Racing.
Oui, le Racing, oui. Ça, ouais. Ça c'est le Racing. Oui.
Ouais, c'est dur. C'est un vrai calendrier pour les
bon,
franciliens.
Le bilan, c'est que le gagnant de La Rochelle Racing demain jouera les
troubles
faites dans les 6 et sera à la bagarre avec l'UBB. Le perdant sera certainement éliminé. Voilà.
Ouais, effectivement.
Ouais, c'est bien comme ça.
Et il y a grand danger pour Toulon ce soir face à Toulouse. Il y a une équipe quand même qui est bien placée, qui est troisième au moment où on se parle. Ça se joue à un petit point. Ça se joue en fait au bonus offensif de Montpellier qui est passé devant. C'est Pau qui s'est imposé face à Castres dans la difficulté. Bonsoir Abder Haghem.
Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Bas. Bonsoir à tous les fans de rugby.
Merci beaucoup d'être avec nous, Abder. C'est toujours un grand plaisir. J'imagine que tu étais au hameau. Je dis ça comme ça, je t'ai même pas posé la question, mais où tu devais au moins suivre le match, d'une façon ou d'une autre.
Ouais, non, mais j'étais au hameau parce qu'en fait, j'y vais à tous les matchs parce que je suis partenaire également de la section paloise déjà depuis de nombreuses années. Je soutiens mon club de cœur. Donc, effectivement, j'étais.
Et c'était
bien.
Pas un match facile aujourd'hui, hein, Abder.
Non. Pas du tout. Un match un peu brouillon, confus. Bon, pourtant, ça nous laissait espérer de bonnes intentions de jeu dès le coup d'envoi, mais après, trop brouillon, imprécis, trop de fautes, je sais pas. Après, c'est vrai que face à cette équipe de Castres, ben, vous la connaissez toutes, hein, cette équipe castraise, elle est quand même réputée pour être assez difficile à jouer. Dur et cette équipe paloise, ben elle a pas su trouver la brèche, elle a pas su s'organiser et appliquer son jeu en fait qu'elle a l'habitude de jouer quoi.
On a vu de la tension au moment de revenir au vestiaire. On a senti le staff bernais tendu. Sébastien Piqueroni est descendu de la tribune. Il a failli faire tomber notre matériel avec Arnoret tellement il était énervé. Ça a coincé quand même aujourd'hui et dans des proportions qu'on n'attendait pas forcément.
Ouais. Et je sais pas en fait, je sais pas ce qui se passe, ce qui s'est passé. On fait une belle sortie le week-end dernier à Paris, où on aurait quand même mérité de revenir avec 4 points. Je sais pas, on s'est cherché, on n'a pas été suffisamment agressif devant, on n'a pas su prendre le jeu à notre compte. Donc on a voilà, je trouve qu'on a un peu papillonné, mais comme je le dis, quitte à faire un mauvais match, autant le gagner. Donc ce qu'on retiendra essentiellement, c'est qu'on a récupéré 4 points, on est invaincu sur nos terrains. Ben, c'est une bonne chose pour la suite. Et après, très certainement que ça va nous permettre aussi, avec cette frustration, de pouvoir rebondir, se rendre compte en fait de nos erreurs et d'essayer de pas les reproduire. Parce que là, c'est vrai que vous en parliez très justement, tout est très serré là en ce moment. On ne sait pas qui c'est qui va vraiment être qualifié. Donc j'espère, en tout cas, qu'on le saura. On le saura parce que on est animé par cette envie. On n'a jamais été aussi bien placé parce que c'est vrai que pendant de longues années, on a plus été proche de la Pro D2 que de se qualifier à la 6e place. Donc on prend ça avec beaucoup de plaisir et on se dit que ça arrive de faire des contre-performances, mais ce qu'on reviendra essentiellement, c'est les 4 points. Après, je pense que l'état d'esprit il est là, mais sur un match, on peut se trouer. Je vois pas trop. Il y a rien d'alarmant en fait à la façon dont on a abordé ce match et dont on l'a réalisé quoi.
Félix Manguero, c'est vrai que, et Jean-Baptiste Elissalde, quand on regarde un petit peu les statistiques, il y a quand même 13 entrées dans les 22 mètres pour 2 essais. Il y a un gros manque d'efficacité. C'est dû à quoi ça, Jean-Baptiste, ouais, selon toi?
C'est dû à des fautes de main, un peu de précipitation. Il y a eu beaucoup, beaucoup de scories dont ils nous ont pas habitués, les Palois. Et moi, je serais pas si satisfait que ça de la victoire, même si comptablement c'est bien, même si on se dirige vers les deux. Il va falloir pour les Palois monter en intensité, parce que si t'attends les 5 prochaines semaines pour aller jouer ta demi-finale sans avoir fait des matchs de haute intensité, en poussant la machine un peu plus loin que je l'ai vu, notamment dans le combat, dans l'intensité combattue, dans les rucks, etc., où ils ont perdu pas mal de ballons. Si t'attends 5 semaines, je pense que ça suffira pas pour prendre un qualifié des quarts de finale, et ça risque de poser problème. Alors je pense que si, pour Pau, c'est le... Ben, on n'a jamais été aussi près du but, quoi. On y est même quasiment comptablement. C'est une première pour le club. Et peut-être que ça bouillonne un peu autour. C'est des choses à laquelle t'es pas habitué forcément. Mais voilà, moi je conseillerais aux Palois de faire des matchs avec beaucoup plus de sérieux et beaucoup plus d'intensité, parce que sinon ils vont tomber de haut sur les matchs éliminatoires.
Abder.
Ouais, Jean-Bart, mais je partage ton analyse, hein. C'est vrai, parce que on n'a pas retrouvé ce rugby en fait qui nous animait là sur la saison, et c'est vrai que là je pense qu'on fait preuve d'un peu de fébrilité, donc il va falloir se reconcentrer, se ressaisir sur l'importance en fait de ce qui approche, et c'est vrai que il va falloir que on soit beaucoup plus déjà discipliné, parce qu'on commet beaucoup trop de fautes, et qu'on soit un peu plus maître de la situation, quoi. Parce que là, on a fait preuve de beaucoup de fébrilité, je trouve. Et le week-end dernier à Paris, le match on se le bouffe, quoi, en gros, quoi, parce que on doit revenir normalement avec 4 points, quoi.
C'est clair. Donc, que ça avait été un crève-cœur pour les supporters, ouais. Bernet, Félix Panguero, est-ce que toi tu mets une petite alerte quand même au Palois aujourd'hui, ou tu restes assez positif malgré tout, parce que la victoire elle est là?
Non, je reste assez positif, parce que quand on regarde la dynamique des dernières semaines, il y a une victoire très très maîtrisée à Bayonne il y a deux journées. La journée dernière, en effet, il y a une mauvaise gestion de fin de match au Stade Français, mais en tous les cas, il y a un point de bonus, il y a du caractère collectif, on sent cette équipe quand même maîtresse de son sujet, même sans la victoire. Et aujourd'hui, en effet, il y a un rappel à l'ordre, il y a une grande fébrilité et un manque de réalisme auquel Pau nous a pas vraiment habitué cette saison. Tu l'as dit sur les stats d'entrée dans les 22 par rapport à l'efficacité, mais il y a aussi beaucoup de possessions et d'occupations fébriles. Et donc ça, c'est pas le visage de Pau qu'on a vu cette saison. Mais malgré tout, je suis d'accord avec Jamba, c'est une nouvelle période à appréhender pour cette équipe de Pau qui en a pas l'habitude sur cette forme de gestion, même s'il y a rien à gérer, parce que il y a cette perspective des phases finales qui approche, et donc peut-être que les têtes sont un peu trop tournées vers ça, et en l'occurrence ça c'est le boulot du staff de libérer un peu les énergies, parce qu'en effet il faut pas être en gestion avant cette période là parce que l'enjeu à minima pour Pau c'est de recevoir un barrage à la vue de leur saison.
Ouais, tout à fait. D'autant plus que là, le week-end prochain, on reçoit l'ASM, quoi. Mais je pense, j'ai confiance quand même au staff, en fait, et à ce groupe. Je sais de quoi cette équipe est capable. Elle est capable de très belles choses, et je reste convaincu que elle va se ressaisir, et ils vont réussir à se mobiliser pour jouer ces événements avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie. Et je pense qu'ils vont très facilement retrouver en fait le rugby qui nous anime déjà depuis la saison, quoi.
Ouais, puis juste pour rebondir,
non, Philippe. Il n'y a pas eu de victoire de Pau en 2026 de façon consécutive. Il n'a jamais eu en 2026 de victoire consécutive de Pau. C'est quand même surprenant.
Ouais, c'est vrai que la stat elle peut être surprenante. Après, c'est vrai que il y a cette stat là, mais à la fois si tu regardes dans le détail, encore une fois, il y a la victoire à Bayonne, il y a la défaite à Paris, mais dans le contenu, ça fait pas deux victoires d'affilée, mais il y a quand même des satisfactions, parce que tu vas chercher un point de bonus chez l'un et une victoire chez l'autre sur deux déplacements. Donc il y a en effet la stat, mais il y a après le contenu. Mais moi, là où je suis pas très inquiet pour cette équipe, c'est que je trouve que ce club a vraiment respire l'humilité. Donc on sent qu'aujourd'hui, c'est pas une défaillance de péché d'orgueil qu'a subi la section. C'est un manque de réalisme, un manque d'efficacité. C'est une piqûre de rappel, ça c'est certain, et le staff va savoir appuyer dessus. Mais on sent pas une équipe qui se sent arrivée.
Ouais, bon, je suis d'accord avec toi.
Ouais, c'est vrai que, en tout cas, ça continue de travailler et on rappelle d'ailleurs que pour l'année prochaine, il y a quand même cette idée-là de se renforcer du côté de la section paloise, mais par petites touches, puisque les départs déjà annoncés sont clairs, hein, Dan Robson à Gloucester, Olivier Clemensac va partir, Thomas Carroll aussi, Émeric Luc aussi vers Brive. Par contre, il y a des arrivées, celle de Rodrigo Marta, de Colomiers, on en parlera dans un instant, de Gonzalo Garcia qui s'annonce aussi le joueur des Zèbres, de Bastien Van Tijver, qui est, je pense, une très bonne recrue, de Baptiste Pesanti qui va amener de l'intensité combattue comme tu le demandais, Jean-Baptiste, parce que c'est vrai que là maintenant pour aller au capot dessus, Jean-Baptiste et les salles, on est sur des petites retouches.
Non, en fait il faut qu'ils vivent le moment présent. Bayonne s'est qualifié l'année dernière il me semble et aujourd'hui ils sont 12e. On sait pas de quoi l'avenir sera fait. Je pense que là ils ont tout pour aller vivre une saison plus qu'exceptionnelle et pas se satisfaire que d'une qualification, même si ce n'est jamais arrivé. Ils ont toutes les armes, mais par contre, je vous dis, dans le contenu des matchs, il va falloir que ça torpille un peu plus, parce que c'est pas eux de se mettre en gestion, c'est au coach de faire de la gestion. C'est au coach de dire, voilà, je vais faire jouer lui 60 minutes, lui je vais le faire rentrer, lui je vais le mettre sur le banc, je vais essayer une association au centre, une association en troisième ligne, des joueurs un peu différents, pourquoi pas, pour être tout terrain, mais les joueurs sur le terrain, ils doivent s'envoyer à perdre jusqu'au bout, parce que le problème c'est que si ils sont tous dans la gestion et qu'on fait attention à ce qui se passe en regardant autour, quand on va arriver le jour J des demi-finales, ça va piquer beaucoup plus fort et ils vont être surpris.
Mais je crois vas-y, pardon.
Oui, non, pardon, on en parlait, c'est vrai qu'il y a toujours ce sujet aussi. Pour une équipe comme Pau, par exemple, je pense que de ne pas passer par la case barrage pourrait être une mauvaise chose.
Ah oui, mais ça, c'est vrai que c'est ta théorie depuis un petit moment.
Ouais, mais c'est partagé en fait. Parce que c'est vrai qu'on aura un match à moins, mais c'est vrai aussi que le fait de jouer un barrage à la maison, je pense que c'est vrai quand même une belle récompense déjà pour l'ensemble des partenaires, des supporters, la ville. C'est vrai que ce sera un super événement et c'est peut-être ce qui va nous permettre de nous. De nous surmotiver pour, bien sûr, ce match-là, il faudra bien évidemment le gagner, et surtout de pouvoir partir après avec de belles intentions pour affronter les demi-finales, quoi. Mais c'est vrai que c'est partagé. Soit on sent deuxième, ça va me paraître un peu compliqué quand même, parce que compte tenu du classement, on a un déplacement à l'extérieur à Montpellier. On reçoit Montauban et on reçoit l'ASM. Donc ça va se serrer, ça va être très serré, quoi. Très serré.
Merci beaucoup, Abder. Okay. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio et merci d'avoir évoqué ce club qui fonctionne très bien, qui est la section paloise. Dans un instant, on va parler du MHR et de Colomiers avec Yacouba Camara et Alain Carré. À tout de suite.
Debar Automobile, négociant et mandataire automobile depuis 30 ans, présente
Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam.
Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio et on vient de vivre un multiplex très intéressant avec le succès de Bordeaux à Bayonne, 40-38, le succès bonifié de Clermont face à Perpignan, 45-14, du Stade Français Paris face à Lyon, 59-17, de Montpellier face à Montauban, 59-7, et plutôt de Pau face au Castres Olympique, 27-15. Revenons justement sur ce qu'il s'est passé du côté du Septéo Stadium et on est avec Yacouba Camara. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Succès attendu, hein, bien sûr, mais quand même, là, j'imagine qu'il y a de la satisfaction sur le contenu aujourd'hui du côté du Septéo Stadium et ce succès avec quand même une jolie flopée d'essais, hein, 9 essais marqués par le MHR.
Oui, tout à fait. Voilà, on avait préparé ce match, on l'avait ciblé parce que voilà, on savait que c'était un match important pour nous pour la course au top 6. Et voilà, je pense que les 5 points étaient pris, il y a eu du jeu et voilà, je pense que ça va être bon pour la suite.
Et on est avec Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanguero. Et justement, c'est vrai qu'on, messieurs, on attendait ce succès, hein, du MHR, mais il y a eu du volume de jeu. 38 minutes quand même de temps de jeu effectif quand il y a 10 essais, c'est quand même assez élevé, parce qu'on perd évidemment du temps de jeu effectif sur le nombre d'essais. Et puis, on a quand même un quadruplé de Rusto Picardo, Jean-Baptiste.
Ouais, le petit argentin, là, un petit taureau au milieu du terrain, qui a fait son match, qui s'est occupé, qui vient chercher les ballons, plutôt au cœur, qui a marqué aussi un essai juste sur son flair et sur l'évitement. Voilà, un petit bonhomme qui est assez vaillant, hein, voilà, trapu.
Costaud.
Il faut se coller celui-là, ouais, costaud. Non, Montpellier, j'ai pas trop de bon, salut Yacou, mais j'ai pas trop d'inquiétude en fait. Je les sens maître de beaucoup de domaines et notamment la maîtrise essentielle du top 14, la conquête, la discipline, l'occupation. Ils sont assez patients et ils ont rajouté depuis quelques semaines un peu de volume dans leur jeu, quelques passes debout, toujours de jeu axial au milieu du terrain, comme à la bonne époque. Et voilà, et la seule question que j'aimerais poser à Yacouba, moi, c'est est-ce que ça serait pas le moment de faire un remake de 2022 et d'aller chercher quelque chose? En tout cas, est-ce que vous en parlez, vous, un peu dans les vestiaires, Yacou?
Alors, je pense que si on se remet comme en 2022, on fait des matchs par match, donc c'est sûr qu'il y a des pensées, mais on essaie de rester focus. Voilà, on sait que ça peut, le championnat est serré et que tant qu'on sera pas vraiment dans les six et que la saison sera pas finie, on pourra pas espérer grand chose. La saison est longue, les matchs sont serrés, et on sait voilà qu'on a deux déplacements à l'extérieur et on reçoit Pau, donc ça va être une fin de saison très excitante pour nous, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça va être très intéressant. Et puis, j'imagine quand on est joueur dans cette équipe-là, Yacouba, il y a cette sensation qu'il y a une cohérence dans cette équipe, que tout est réfléchi et tout fonctionne parfaitement. Il y a une symbiose. Même aujourd'hui, quand la composition était un peu plus hybride avec des joueurs qui avaient besoin d'avoir un petit peu de temps de jeu, ça fonctionne quand même.
Ouais, c'est plus facile quand ça gagne. Voilà, ça fait plusieurs mois qu'on gagne des matchs. Donc même un joueur comme Mamadou Diaby qui vient d'arriver, il a été vite attiré dans le groupe, il s'est vite adapté. Ça se ressent même sur le match d'aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on a une ligne directrice, on a des codes à respecter. Et voilà, je pense que quand tout le monde va dans le bon sens, c'est plus facile.
Yacouba, vu la saison que vous faites, vous personnellement, est-ce que vous pensez à l'équipe de France?
Non, sincèrement, je pense pas du tout à l'équipe de France. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont nettement meilleurs. Je crois en parlant de Lenny Lucci, Alexandre Déconnier. Non, du tout. Et puis, je pense que j'ai pas le niveau. Donc, non, je vais rester au chaud à la maison. On va combattre tous les week-ends et voilà, ça va être mieux comme ça.
Yacouba, est-ce que du coup là au sein du groupe vous commencez un peu à parler d'un potentiel doublé? Je rappelle que vous êtes en finale également de challenge européen, à plus qu'un match du coup, et ce top 14 qui vous suit bien, notamment avec votre paquet d'avant assez dominant, vous commencez à en parler ou alors juste pour faire des plaisanteries mais pas vraiment encore?
Sincèrement, on n'en parle pas du tout. Comme je vous l'ai dit, depuis le début de saison, on se fixe match après match. Et voilà, je pense que et c'est ce qui a fait notre force en 2022, c'est ce qui fera notre force cette saison aussi. Donc voilà, on va préparer le match de casse comme il faut et quand ça sera fini, bon, on préparera bien la finale et ainsi de suite. Mais je pense que voilà, il faut pas qu'on se projette trop loin parce que sinon on risque d'avoir des grandes désillusions.
Ouais, effectivement, merci beaucoup Yacouba d'avoir été avec nous et bravo pour ce succès 59-7, victoire bonifiée du MHR face à Montauban avec, je le disais, 9 essais dont un quadruplé de Rosto Picardo, le 3 quarts centre Torito comme ils disaient les supporters argentins, petit taureau au centre du terrain. On bascule vers la Pro D2 avec Alain Carré. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Ça nous fait très plaisir de vous avoir, président de Colomiers, très fin connaisseur du rugby français, du top 14, de la Pro D2, de tout ce qui se passe en coulisses, des tractations, de l'avenir du rugby français. Voilà, vous êtes plus qu'un président de Colomiers. Je crois que vous êtes d'ailleurs toujours le président de l'UPCR, hein, du syndicat des clubs professionnels, si je ne me trompe pas.
Oui, l'Union des clubs professionnels, oui, effectivement, mais enfin bon, ok, c'est ma passion, le rugby, mais bon, je suis pas non plus, bon, c'est vrai que quand même, avec les années, bon, voilà, l'expérience, et puis ce qu'on a vécu, c'est sûr qu'on peut parler de ce sport, quoi, ça c'est sûr.
Et on en parle régulièrement, on parle tout le temps de la Pro D2, vous le savez, tous les vendredis soirs sur Sud Radio, on en parle régulièrement avec Philippe Spanguero, et Colomiers fait une saison assez exceptionnelle, et Philippe, c'est vrai que toute l'année, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va stopper Colomiers? Et Colomiers, avant la dernière journée, est deuxième du championnat, 90 points. Philippe, toi, tu avais parlé de, je me souviens, je l'avais noté, de belles anomalies. il y a quelques mois en parlant du rapport budget résultat. Philippe, tu confirmes ça, cette idée de belle anomalie de Colomiers?
Oui, bien sûr, je confirme et j'espère qu'Alain le comprend dans le sens dans lequel je veux le dire, parce que quand on a parlé de Colomiers la semaine dernière, on a regardé les rapports budget-performance au classement des cinq dernières années, et c'est Colomiers la meilleure équipe dans ce rapport-là. Donc ça s'explique avec tous les invités du club qu'on a eu cette saison, par un travail très particulier sur la formation, par une vision particulière du rugby, par la façon aussi d'utiliser les doubles contrats et les prêts, puisque on rappelle que Colomiers a été un des premiers à l'époque avec le talonneur de Castres et puis ensuite avec Thomas Ramos. Donc voilà, il y a une vraie vision et c'est super intéressant parce que ça montre qu'il y a encore la place pour des économies réelles comme ça, pour allier quand même une vision et de la performance sportive.
Oui. Non mais Philippe, c'est bien ce que tu me dis. Et tu vois, les prêts, c'est même bien plus longtemps que ça. Le premier prêt qu'il y a eu à Colomiers, c'était Yannick Bru. Comme quoi, hein, c'était...
Exact. Mais alors, tu vois, je ne savais pas que c'était un prêt à l'époque.
Je pensais qu'il avait signé. J'étais pas président, moi. C'était Michel Bendichou, bien sûr, à l'époque. Donc voilà. Bon, mais écoute-moi, non, mais c'est vrai. Bon, on est satisfait. On va pas se voiler la face. Et c'est vrai que bon, mais ce n'est pas un accident, parce que l'année dernière, bon, mais on a été dans les quatre, on a eu un barrage à domicile. Après, ça a été quand même un petit peu difficile parce qu'il y a eu un peu de turnover, c'est-à-dire que Julien, bon, Starotte n'est plus avec nous, et c'est cette année que je n'ai pas de manager, et puisque Flo Nico avec Aurélien Bécaud et Yann Kergoulet, bon, mais sont les trois hommes à la manette aujourd'hui à Colomiers. Bon, force constater que bon, ça marche aussi, ça marche encore avec nos jeunes, notre formation. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'association, c'est important avec David Skreda. Moi, je suis en très très bonne relation avec la SOS, et donc on marche bien. On regarde sur le futur, sur les jeunes que nous avons. On vit bien en fait. On vit bien notre rugby à Colomiers.
Pardon Alex. Ça me fait penser, quand je t'entends parler de l'arrivée de David Skrela à l'association, j'ai bien connu Colomiers, et on parle beaucoup de la culture toulousaine, dans cette volonté d'avoir à tous les échelons des anciens joueurs une vraie culture club, et on sent qu'un des socles de la performance aussi de Colomiers, c'est la manière de cultiver cette culture club de façon un peu particulière. Est-ce que tu partages l'avis, et si oui, comment vous le travaillez?
Ah oui, non, mais bien sûr que je partage ton avis. Alors comment on le travaille? Bon, on le travaille déjà en étant tous ensemble. Il faut pas qu'on ait certains clivages qu'on peut avoir dans certains clubs. Donc on est tous ensemble. On ne parle pas et de la SOS et de la SSP. On parle d'un club, c'est un club tout entier. Bon, c'est vrai que les statuts juridiques font qu'il y a une association et qu'il y a une SA. Mais nous, pour nous, c'est Colomiers, on est tous ensemble, on vit bien. On a les anciens qui sont là, qui tous les mercredis, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, peu importe, le soir, ils sont ensemble, ils mangent un morceau tous les mercredis soir. Bon, voilà, je suis souvent invité, j'y vais quand je peux, mais on est tous ensemble, on vit bien, voilà, et donc on essaie de performer par rapport à ça. Cette année, par exemple, Adélaïde va nous quitter, puisque donc lui, il part sur la Rochelle. Mais on ne recrute pas en deuxième ligne. On a deux jeunes de chez nous, Grangier et Pédemons. Et bien voilà, on intègre ces deux jeunes avec la une. Parce que, voilà, encore une fois, ce sont deux jeunes, on en parlera plus tard, parce que c'est deux jeunes qui ont un grand talent, et bien, voilà, qu'on va incorporer avec la une, et là, bientôt, voilà, ils vont partir, ça va redémarrer la saison, il y aura le stage, ils seront là, et je crois que ça, c'est bien, quoi. On le voit aujourd'hui, on voit le nombre de gifs, on a un très très bon classement au nombre de gifs, par rapport à la ligue, et là pareil, je crois qu'on est dans les deux trois premiers. Ça aussi, c'est que bon, mais les jeunes issus de la formation française, il ne faut pas qu'en parler, hein, il faut en avoir. Et puis je souhaite que aujourd'hui les clubs de national qui vont monter en Pro D2, le club ou les clubs qui vont monter en Pro D2 pensent à ça aussi, que et voilà, et qu'on impose pour eux, qu'on leur impose aussi des gifs, voilà, qu'on se mette un petit peu principaux diapasons de notre Pro D2, qui est un championnat fantastique, qui est bien relayé par les médias. Donc vous, suite, vous en faites partie. Et je crois que c'est très très bien. Là, on marche un peu sur un nuage. Pour ça qu'il faut, faire très attention à tout ce que nous faisons et à tous les mouvements qu'il y a à l'intérieur de la Ligue nationale de rugby. Il faut surtout penser à la Pro D2.
Ouais, effectivement, si je ne me trompe pas, le budget c'est 8,7 millions hein, de Colomiers et vous êtes le 16e club professionnel de rugby actuellement.
Voilà, avec 8,7, on met l'association dedans. Parce que le budget de la SSP c'est 7,9.
Ah ouais, c'est impressionnant quand même. Jean-Baptiste Elissal qui est avec nous, tu as évolué longtemps à Toulouse avec Colomiers pas bien loin, et d'ailleurs qui a évolué aussi en top 14, en première division à l'époque. C'est incroyable quand même ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, oui, bah, c'est pas étonnant. Hein. C'est un club pérenne, c'est un club qui malgré a réussi à surmonter toutes ses difficultés grâce à son association, grâce à son école de rugby, grâce à ses présidents, grâce à toute la structure. C'est un club où il fait bon vivre, où je me rendais toujours avec plaisir parce qu'il y a une bonne ambiance. Tu vois souvent du bon rugby. Ça recrute juste qu'il faut, mais c'est très très adroit. Donc ça paraît très bien. Maintenant, président, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'avec 7 millions 9 ou même allez 8 millions 9 vous voyez en top 14
avec ce budget-là? Non, d'abord, mathématiquement, il y a pas beaucoup, mais il y a quelques millions qui arrivent, puisque donc, en faisant les comptes, quasiment mathématiquement, il y a 3 700 000 euros qui viendraient donc à la SSP, parce que moi, le top 14, c'est vrai que ça n'a jamais été l'objectif du club, le top 14, mais aujourd'hui, si des garçons, si des coachs, si un club y arrive, bon, moi, je me dois. Eh bien, de tout faire pour essayer le top 14, bien sûr. Mais par contre, il faut les moyens. Bon, financièrement, on serait le club. Jamais il y aurait un club qui aurait eu un si petit budget. Par contre,
mais ça vous fait pas peur une saison comme Montauban?
Ben là, c'est Montauban, ce qu'a fait Montauban en Pro D2, c'est fantastique, hein, parce que je rappelle, le 6e, ils sont venus chez nous, on les recevait, on les avait exposés deux fois, et là, bon, 2-3 points, ils nous passent, bon, ils vont à Brive, enfin, on sait tout ce qu'ils ont fait sur la Pro D2. Après, bon, le président Maillard, a voulu pas trop bouger son effectif, même pas du tout, hein, je crois qu'il a reconduit quasiment la totalité des joueurs qui était donc sur la Pro D2, hein, c'est bien, mais après c'est quand même difficile. Donc moi je crois, même si j'ai des joueurs et s'il y a des joueurs qui méritent d'être et qui auront le niveau donc de la Pro D2, certains, je suis obligé de rajouter 4 ou 5 éléments supplémentaires de très très haut niveau parce que il le faut, hein, voilà.
Et justement, en parlant de ça, président, est-ce qu'il y a pas, enfin, c'est des réflexions que j'ai hein, quand je vois Montauban cette année ou même Vannes l'année d'avant. En fait, quel que soit le budget, c'est tellement difficile de recruter au dernier moment et t'as souvent pas trop le choix. Est-ce qu'il y aurait pas un système de sur les joueurs, les jeunes joueurs en prêt des cadors du top 14 qui a souvent comme le petit Delpy et tout ça, d'avoir une sorte de draft et que le club qui monte ne puisse pas avoir la primeur de recruter les 5-6 meilleurs éléments ou un par ligne, je sais pas, enfin sur l'ensemble du rugby français pour les mettre à l'épreuve dans le top 14 et pour que ça soit un soulagement du salary cap entre guillemets, parce que ça sera pas dépassé, mais au moins pour que le reste de l'argent serve à aller recruter quelque chose pour essayer au moins d'exister, parce que là Montauban cette année c'est dramatique pour ne serait-ce que pour le côté sportif, il n'y a pas de match quoi, enfin c'est trop compliqué.
Mais non, mais là c'est sûr que s'il pouvait y avoir quelque chose au niveau des prix avec une préférence donc pour flécher sur les clubs qui montent des prix. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire si on pouvait le faire, mais alors de quelle manière et tout, mais c'est quelque chose qui peut se poser, c'est des réflexions qui peuvent être faites donc à la Ligue, en bureau. Voilà, parce que des prêts, donc on en a, hein, on en tourne toujours sur 2 ou 3 tous les ans, nous. Bon, on a toujours un avec le stade. Bon, quand on voit Delpy aujourd'hui, donc les matchs qu'il fait avec Colomiers, bon, il est bien intégré, il s'éclate ici, mais c'est fantastique. Si Colomiers a pu lui servir donc de gravir une marche supplémentaire, bon, mais c'est super. L'année prochaine, donc on a un jeune centre. Petit Vignière, que nous aurons en prêt du Stade Toulousain aussi. Bon, je pense que c'est un très bon élément qui lui aussi progressera. Mais si on pouvait avoir, effectivement, si on pouvait avoir une priorité, hein, en quelque sorte, sur des prêts de bons joueurs, de jeunes joueurs de top 14. C'est vrai que ce serait très très bien pour les clubs qui accèdent, quoi.
Merci beaucoup Alain Carré, président de Colomiers. On rappelle les résultats hier et le succès, donc 19 à 13, très difficile face à Mont-de-Marsan, mais solide en seconde période. La victoire de Béziers à domicile face à Biarritz 43-17, de Grenoble à Aurillac 38-36, d'Oyonnax à Nevers 47-26, de Valence-Romans à Dax 33-31, de Brive à Carcassonne 44-28, le succès à domicile d'Agen face à Soyons-Angoulême 45-14, et plus tôt dans cette 29e journée, Provence s'était imposé face à Vannes 34-31. Colomiers ira Grenoble la semaine prochaine. Merci beaucoup Alain et très belle soirée en Haute-Garonne.
Voilà, et bonne continuation. Merci Sud. Très bien.
Au revoir, président.
Merci beaucoup. Merci Alain. Et on bascule avec Johanna Grisé. Bonsoir Johanna.
Bonsoir.
C'était le temps fort de cette journée. Merci d'être avec nous. Les Bleus ont passé 11 essais en Écosse. Une victoire impressionnante, même si tout n'a pas été parfait. La perfection est un chemin difficile, mais un succès impressionnant quand même à Édimbourg. 69 points marqués face à une équipe d'Écosse qui semble vraiment progresser, hein, Johanna Grisé. On aura donc notre finale. On l'aura cette finale face à l'Angleterre, puisque les deux nations sont à 20 points après 4 journées.
Ouais, bon, franchement c'est plaisant parce que c'est une victoire qui aboutit. Je pense que en attaque on a réussi, enfin elles ont réussi à vraiment mettre entre guillemets du jeu, à aller chercher des opportunités que, enfin, en début de tournoi on avait un peu plus de mal à se créer. Donc je pense que c'est vraiment de bon augure pour aller jouer l'Angleterre et vraiment être vraiment relâché, quoi, parce que c'est ce qui nous a manqué ces dernières années contre elle, première mi-temps compliquée sur ces Six Nations. Donc non, là franchement c'est une bonne répétition pour aller plutôt sereine la semaine prochaine à Bordeaux.
C'est vrai que je vous ai pas posé la question, Johanna, mais si vous êtes avec nous aussi, c'est parce que vous pouvez pas participer à ce tournoi destination en raison d'une blessure au genou. Comment ça va là, l'opération au niveau des ligaments croisés, Johanna?
Ouais, ben j'ai quand même un peu participé, mine de rien, j'ai fait 45 minutes.
C'est vrai.
non, je rigole. Ça va doucement. Je suis à un peu moins de 2 semaines, donc c'est parti. C'est un long chemin, mais bon, il y a pas de raison. Il y a beaucoup de monde qui passe par là, donc ça ne m'arrêtera pas. Donc voilà, juste un temps d'arrêt.
Johanna Grisé, je le rappelle, 14 sélections et 12 essais, je crois, en équipe de France à 15, hein, à 7, c'est astronomique. Aujourd'hui, il y a 17 entrées dans les 22 mètres de l'équipe de France, de l'équipe de France dans les 22 mètres de l'Écosse. Il va falloir se préparer, j'imagine, à un autre type de scénario face à l'Angleterre.
Ouais, complètement. Mais c'est pour ça que c'est bien aussi, c'est que je pense que quelque part là, les filles, elles ont amalgamé beaucoup de confiance en attaque. La semaine prochaine, ça va être une autre défense, je pense surtout. Et puis surtout, ça va être une autre attaque. Là, on a vu, on s'est fait un peu avoir sur un ballon porté où on a pris un essai. Voilà, l'Angleterre, c'est beaucoup ça. On arrive souvent à les cadrer dans le jeu globalement, à part quand on fait des fautes, qu'elles ont des touches, qu'elles font des ballons portés. C'est un peu leur façon de jouer, leur façon de gagner contre nous. Mais là, c'est bien de se dire qu'à une semaine du match, on arrive à mettre 70 points. Ça veut dire que l'attaque commence à être rodée. Et je pense que ça va nous servir pour la semaine prochaine j'espère, passer un maximum d'essais de l'autre côté.
Jean-Baptiste Elessalde, de ce que tu as vu depuis le début du tournoi Destination, qu'est-ce que François Ratier a mis en place en tant que coach?
Ça, c'est difficile à dire. Hein. Déjà, il a récolté le boulot de tous ses prédécesseurs en plus en 4 matchs, et du travail de que fait dans le fond la Fédé, les clubs, et notamment les clubs qui sont des gros pourvoyeurs et qui essayent de se structurer. C'est assez difficile, hein. Elles sont pas toutes professionnelles, donc c'est peut-être encore ce qui nous sépare des Anglaises, mais en fait c'est la même équation tout le temps. C'est que tu sais que ce tournoi, c'est l'Angleterre, en fait. Il faut absolument un jour arriver à aller les chercher. L'écart, j'espère, est en train de se réduire, et je leur souhaite de les dépasser est passé, mais comme l'a dit Johanna, c'est solide, c'est athlétique, ça s'entraîne un petit peu plus que les Françaises, enfin depuis quelques temps, puisqu'elles sont professionnelles, elles, de leur côté. C'est très très bien organisé, notamment sur les ballons portés, les phases statiques. Ça utilise un peu mieux que tout le monde le jeu au pied, ça fait que c'est une équipe redoutable à manier. Voilà, j'espère que les Françaises sont ce coup-ci en mesure de le faire. Mais comme à chaque fois, c'est la dernière match la plus dure, et je leur souhaite le meilleur. Vraiment, elles progressent et j'espère que ça va le faire.
Et Johanna, une petite question, parce que le match du coup contre les Anglaises aura lieu à Bordeaux. C'est quasiment même plein. C'est l'engouement. Il y a aussi l'engouement derrière le rugby féminin. On le voit avec Canal Plus qui diffuse certaines rencontres de l'élite 1 cette année. Des stades pleins, plus d'engouement. Ça aussi, vous le ressentez et ça vous donne peut-être aussi un peu d'envie d'aller faire tomber ces Anglaises qui sont légèrement arrogantes en plus avec le nombre de victoires de suite pour elles.
Légèrement arrogante.
J'ai essayé de minimiser.
Ouais, bon, c'est la mentalité. Je pense que c'est la mentalité qui veut ça. Elles sont pas méchantes en dehors, mais c'est vrai qu'elles dégagent ce truc-là sur le terrain. Alors, je sais pas si c'est travaillé ou pas, mais bon, ça change pas, finalement, pas grand-chose à la façon dont il faut les préparer et les jouer. Et puis, bon, ça reste, voilà, elles ont pas perdu, vous imaginez, depuis la dernière Coupe du Monde, enfin, avant. Elles ont pas perdu un match en 4 ans. Donc, voilà, on arrive dans ces conditions-là avec un staff qui vient d'arriver, avec peu d'expérience, des nouvelles joueuses. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'envie, je pense qu'on est quand même en capacité de les faire tomber. Je pense qu'il faut juste jouer. Et puis oui, concernant le développement du rugby féminin, je pense que chaque année, voilà, ça continue d'avancer doucement. Après, toujours trop lentement à nos bouts, parce qu'on a beaucoup parlé de l'après-coupe du monde, des retombées, etc. Parce qu'effectivement, c'est une réalité. Ça a été très suivi, on a battu des records d'audience, etc. Mais la réalité, c'est qu'en termes de retombées proprement parlé, nous, on n'a pas sincèrement eu de ressenti, de quelque chose de hyper palpable, à part effectivement un naming en élite 1. Les rediffusions Canal, elles existaient déjà l'année précédente. Je pense juste que voilà, petit à petit, ça avance, doucement mais sûrement, et on espère encore plus. Et pour ça, ça serait bien de gagner, en fait, finalement. On entend parler d'un sport et d'un collectif que quand ils gagnent réellement. Donc c'est la dernière marche qui nous reste à aller chercher.
Merci beaucoup Johanna, et bon rétablissement au niveau de ce genou, et on espère vous revoir rapidement sur les terrains à 7 ou à 15. Merci beaucoup Johanna d'avoir été avec nous sur Sud Radio dans Au cœur de la mêlée. On va tout de suite du côté du Vélodrome retrouver Mathias Merlot, parce que ce soir c'est un très grand rendez-vous, Toulon face à Toulouse. Les Toulonnais, ils aiment pas trop aller au Vélodrome ces dernières années. Il y a une espèce de... C'est pas chez vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vois ça partout sur les réseaux sociaux cette semaine.
Salut Alex, salut tout le monde. C'est vrai que c'est pas Toulon, c'est différent, ça reste la Méditerranée, mais un Toulonnais n'est pas un Marseillais, et l'inverse est également vrai, mais bon.
Ce serait pas mal que Vélodrome voit des victoires quand même.
Économiquement, c'est important pour le RCT de venir jouer cette rencontre ici. C'est à peu près 6 fois la recette réalisée à Mayol sur un seul match. Et bien évidemment, dans un club qui perd 9 millions d'euros par an, vous pouvez comprendre que c'est également important de venir jouer dans ce magnifique écrin qui sera plein ce soir. On attend plus de 66 000 spectateurs.
Ah, c'est super. Et avec beaucoup d'enjeux ce soir pour le RCT, il n'y a plus le droit à l'erreur, hein, tout simplement.
Tu l'as dit Alex, parce qu'au coup d'envoi de cette partie, Toulon compte 9 points de retard sur l'Union Bordeaux-Bègles, vainqueur de Bayonne plus tôt dans l'après-midi. Donc 9 points de retard sur la 6e place à 4 journées de la fin, avec un calendrier corsé. Il y aura Toulouse, le Racing 92, Bordeaux-Bègles à Mayol, et enfin avec un dernier déplacement du côté de Castres. Un menu corsé et plus droit à l'erreur, hein. C'est Zach Mercer qui l'expliquait notamment en conférence de presse. Il a bien dit que s'il y avait encore une seule défaite, ça sera fini pour le top 6. Donc après une défaite en demi-finale de Champions Cup, ça pourrait être une saison mi-figue mi-raisin, comme on peut dire à Toulon, voire plutôt décevante d'un point de vue du top 14, puisqu'on le sait, hein, Bernard Lemaitre voulait voir son équipe minimum en demi-finale du championnat. Donc il est vrai que Toulon n'a plus vraiment le choix face à Toulouse.
Merci beaucoup Mathias, on te retrouve tout à l'heure au coup d'envoi 21h avec Cyprien Béthou et toute l'équipe. C'est maintenant de qui je suis. Je sais, voilà, ils attendent ça depuis le début de l'heure. Et du coup.
Ça fait quand même quelques semaines qu'ils s'esquivent en plus, donc.
Ben oui, je sais bien. Donc c'est parti, c'est maintenant. On va parler de joueurs qui sont passés par Colomiers. Vous êtes prêts?
Ouf.
C'est parti.
J'aime.
Je suis né à Toulouse, j'ai évolué à Auch, Nice, mais c'est à Colomiers que j'explose entre 95 et 2000, avant d'aller au Stade Français Paris 2000-2004, la section paloise 2004-2006.
Philippe. Patrick Tabaco.
Patrick Tabaco, 1-0 pour Philippe. Ouais, ça a été rapide. Hein. C'est le premier arrivé à 2 points, donc il va falloir réagir, Jean-Baptiste. Hein.
Ah bah ouais, premier arrivé à 2. Ouais. Premier arrivé à 1.
Allez, attends. Une minute. Je pense que t'as ta chance.
Il reste une minute.
Je suis né à Beaumont en 1997. J'ai été formé à Clermont, puis à Colomiers, où j'ai terminé ma formation et j'ai commencé chez les pros de 2017 à 2020. Je suis ensuite allé 5 ans à Castres, où j'ai connu l'équipe de France, rapidement, avec 11 sélections. Je suis désormais un joueur de l'Union Bordeaux-Bègles.
Ah bah oui.
Cyprien.
Bah oui, le casqué.
Barlow.
Baptiste.
Philippe.
Ah bah il a raison, c'est Baptiste, Cyprien. Hein. Gaëtan Barlow.
Ah oui. Mais je savais pas qu'on allait le droit de jouer.
Mais
je savais même pas qu'on jouait.
Je savais pas. Il a pris le micro, il a dit quoi. Je joue.
Ah bah je
suis né à Castres en 1978, formé à Groyer, où j'ai commencé avant d'aller à Colomiers.
Baptiste.
Yannick Jozion, le prochain qui trouve à gagner.
Il y a un.
Je suis né à Villefranche de Lauragais en 1970, où j'ai été formé, où j'ai commencé chez les pros avant d'aller à Colomiers 91-96 et de faire ensuite 9 ans à Biarritz. J'ai 2 sélections et j'ai été entraîneur de Dax. 2000 d'ouverture ou 2000 de mêlée, 1m75. Joueur emblématique du Biarritz Olympique.
Baptiste. Oh putain, je vais me tromper. Alexandre Albouy, mais je me suis trompé.
Non.
Cyprien.
Non.
Cyprien.
Pierre Long.
Non. Mon prénom, c'est Laurent.
Philippe. Laurent Mazas.
Laurent Mazas, c'est victoire de Philippe Panguero. Mais si, Laurent Mazas. Eh, bravo, Mazas. Philippe. Eh oui, Laurent Mazas
à Villefranche de Lauragais. Eh oui.
Victoire de Philippe, imbattable. Allez, on se retrouve demain sur Sud Radio pour au quart de la mêlée avec vous deux à 18h et à 21h. Soyez au rendez-vous. Toulon-Toulouse.
Merci à tous. Merci, bravo.
Débat automobile, négociant et mandataire automobile depuis 30 ans, vous a présenté
Sud Radio au cœur de la mêlée.